Bonjour à tous, c'est Denis Brognard. Vous écoutez Vie d'aventure, un podcast où je m'entretiens avec des hommes et des femmes aux destins extraordinaires. Des aventuriers, scientifiques, photographes, navigateurs, plongeurs ou encore alpinistes. Ils ont en commun une soif d'exploration. Je vais à leur rencontre, ils se confient sur leurs exploits, leurs expériences, en traduisant par des mots leurs émotions. Une photographie sonore avec des personnages hors normes qui forcent le respect par leur courage et la dimension de leur engagement. Ces héros des temps modernes vont vous transporter dans leur monde, vous permettre de vous évader et de réfléchir avec eux à l'évolution de notre planète. Prenez le temps de les écouter, ces baroudeurs, ces voyageurs. Voici tout de suite un nouvel invité dans Vie d'aventure. Cédric Gras est un voyageur, un explorateur du monde qui change, surtout à l'Est, de Moscou à Vladivostok, souvent à pied et seul. Et c'est aussi un écrivain qui traduit ses expériences, ses sensations, ses rencontres et ses recherches par de magnifiques textes. Ce russophile capte la démesure du continent russe, nous exprime sa fascination pour l'automne, allant à contre-courant de tous ceux qui appréhendent cette saison de transition. Cédric Gras compare le voyage à une forme de poésie. Après avoir reçu le prestigieux prix Albert Londres pour son dernier ouvrage, Alpiniste de Staline, il est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Bonjour Cédric.
Bonjour Denis.
Merci d'être avec nous dans Vie d'aventure aujourd'hui entre deux voyages, deux expériences. Tu es né dans la banlieue parisienne, tu as étudié au prestigieux lycée Hoche à Versailles, mais dès ta majorité, tu as eu envie d'évasion, tu es parti à la découverte du monde. C'est donc une vocation très précoce qui t'a animé.
Je crois qu'on peut parler de vocation parce que j'avais pas de raison particulière, d'explication dans mon cercle proche, familial, etc., qui me jette sur les routes. Je crois que j'ai été sujet à ce qu'on appelle assez joliment l'appel du large. Voilà.
Et alors, avant de partir, de vivre en Russie, d'apprendre la langue, tu as d'abord été de l'autre côté, en Amérique du Sud, puis en Mongolie, aux frontières de ce continent russe.
Moi, j'étais attiré par l'Amérique du Sud. Alors, je faisais beaucoup de montagnes, donc c'était les Andes, le Tibet, l'Himalaya, etc. Et donc, c'est par là que je suis parti d'abord. En plus, j'avais une maîtrise de géographie à écrire qui portait sur l'Himalaya oriental. Je faisais beaucoup de voyages pendant mes études dans ces régions-là, asiatiques et montagneuses. Voilà. La Russie, c'est venu après. Encore une fois, c'est pas un pays dont on a l'intuition. On n'est pas forcément attiré par la Russie tout de suite. Et c'est peut-être mieux. Hein. Je pense pas qu'il soit une bonne idée de partir trop tôt dans ce pays qui est un pays assez particulier.
Je voudrais comprendre qu'est-ce qui t'anime au début dans ces voyages au long cours. Est-ce que tu as déjà ton petit carnet, est-ce que tu écris dès le début ?
Oui, j'écris dès le début, mais alors là, il ne faut surtout pas me demander d'en lire quelques pages, hein, Denis, parce que c'est assez lamentable. Ces carnets, j'en ai encore quelques-uns chez moi. Il y avait des sentiments très intéressants, même des idées que j'ai pu reprises, mais alors je les ai redéveloppées, réécrites, parce que pour le coup, c'était très très mal exprimé. C'est là qu'on comprend aussi à quel point on peut progresser dans la maîtrise et l'expression qu'on a de sa propre langue, de sa langue natale. C'est assez enthousiasmant d'ailleurs, parce qu'avec l'âge, ça progresse.
Cédric, tu exprimes donc cette progression dans l'écriture. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour le voyage ?
Je dirais que quand on est jeune, les premiers voyages, c'est de la curiosité. Et ensuite, on a envie de faire le plein de savoir. Et ça, c'est une évolution tout à fait normale et puis qui va de pair avec aussi notre apprentissage.
Comment tu juges le fait que finalement, en France, les jeunes voyagent beaucoup moins que dans les pays limitrophes ? Les Allemands, les Anglais, les Néerlandais partent régulièrement après la fin de leurs études pour 6 mois, un an de césure. Nous, on est beaucoup plus frileux dans notre pays.
Alors cette idée de césure, moi je l'aime beaucoup parce que marquer le passage à l'âge adulte, j'ai l'impression que dans les sociétés occidentales, c'est devenu faire un grand voyage. Voilà. C'est une espèce d'initiation. Il y a quand même une idée de voyage initiatique aujourd'hui chez tous ces baroudeurs qui prennent leur sac à dos et qui partent pour un temps plus ou moins long et puis refaire des voyages plus ou moins engagés. D'ailleurs, là n'est pas la question. Chacun fait ça à son niveau. Mais j'aime beaucoup cette idée du rite de passage qui passe par le voyage. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait ça, d'avoir vécu ça. Et donc, peut-être que les Allemands, les Néerlandais ont un petit peu plus ça dans leur sang, dans leur culture. Je ne sais pas que nous, mais je crois que c'est quelque chose que tout le monde devrait éprouver une fois dans sa vie. Et cette époque-là, entre la fin des études et le début d'une carrière professionnelle, je trouve, est très propice à ça.
Dans un instant, on sera avec toi au terme du Transsibérien, de l'autre côté du continent russe, à Vladivostok. Mais d'abord, cette différence que tu fais entre le voyageur, l'aventurier et l'explorateur. Tu dis, et je te cite, le mot explorateur n'existe plus, c'est un mot du passé, parce qu'il n'y a plus de terre inconnue, de terra incognita. Et tu ajoutes, avec beaucoup de poésie, on a toujours un billet retour aujourd'hui.
Cet abus du terme explorateur aujourd'hui a le don de m'agacer parce que c'est vrai que les voyages qu'on fait, même quand ce sont des voyages un petit peu loin de nos bases, engagés, etc., ça n'a plus rien à voir avec l'exploration. D'abord parce qu'on n'est plus les premiers et ensuite parce que même si ça arrive hein, parfois qu'on puisse être le premier homme encore sur Terre à mettre le pied à tel ou tel endroit, en général c'est des endroits assez austères, dénudés et sans grand intérêt, on en a de toute façon une connaissance préalable par Google Maps, par la science qui permet en fait, comme dans l'exploration spatiale, en fait d'envisager l'inconnu avant même qu'on y mette les pieds. Ce qui est quand même la grande différence avec les aventures et les explorations, là, pour le coup, des grandes découvertes, où c'était un défrichement absolu. On a toujours le moyen soit d'appeler au secours, soit, et c'est ça qui, pour moi, effectivement, je ne me dédie pas cette citation, je l'assume parfaitement, est la plus grande différence. Le billet retour, c'est non seulement un confort, mais en plus, et c'est presque une contrainte, en fait, parce que le voyage, à mon sens, et l'exploration, a fortiori, c'est de ne pas savoir quand on rentre, de ne pas savoir comment on rentre. Lorsqu'on part, on ne devrait pas savoir quand est-ce que finalement on va rentrer chez soi. C'est les grands voyages de la mythologie grecque, c'est Ulysse, mais c'est aussi la Pérouse qui part, qui n'en revient pas d'ailleurs, c'est Bering qui part pour des années, des années, des années. Voilà, c'était ça l'exploration. Aujourd'hui, on n'a plus cette épreuve du temps. D'abord parce qu'on a raccourci l'espace, la planète était très rétrécie par l'efficacité des transports. Ce rapport que je trouve magique, moi, entre le temps et l'espace, a malheureusement un peu disparu.
Pourquoi cette appétence pour la Russie? Tu considères presque que c'est ta deuxième patrie.
C'est une culture, une histoire dans laquelle j'ai baigné pendant une époque qui va de mes 24 ans à mes 35 ans et qu'on peut appeler plus ou moins la jeunesse. Donc, évidemment, ça m'a un petit peu forgé, formé, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai sans doute changé aussi. Donc, c'est une région qui est très importante pour moi. Alors, pourquoi j'étais parti là-bas? Un petit peu par hasard, au départ, avec, cela dit, l'intuition que le monde, dans ces régions extrêmement continentales d'Eurasie, ne ressemblait pas au reste, parce qu'il était évidemment beaucoup moins visité. Moi, très rapidement, j'ai pris en grippe le tourisme de masse et je ne reproche à personne de vouloir partir, mais quand on est trop à le faire, eh bien, tout le monde est déçu. Et dans ces régions eurasiatiques, il y a quand même beaucoup, beaucoup moins de passages. J'avais la sensation que j'allais pouvoir là me fondre un petit peu dans la masse, me diluer au sein des Russes et des autres ethnies de la Fédération de Russie et donc d'en apprendre davantage. Et aussi, sans doute, de faire œuvre un petit peu encore, malgré tout, d'exploration. On est dans une mise à jour, en fait, des connaissances du monde. Parce que le monde change extrêmement vite. Et cette région-là, quand même, à travers tout le XXe siècle, elle était interdite aux Occidentaux. On ne pouvait pas aller dans ces républiques ex-soviétiques socialistes. Et elles avaient changé, forcément, sous la coupe du régime communiste. Donc, les réexplorer, finalement, ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et je trouvais qu'il y avait, sinon une exploration brute, eh bien, quand même un voyage... chargé de questions et de connaissances à faire, et je m'y suis attardé effectivement plus d'une décennie.
Alors tu choisis dans un premier temps le bout du bout, l'extrême-orient russe, Vladivostok, où tu travailles notamment à l'Alliance française. C'était aussi un but que d'aller vraiment à l'extrémité est de ce continent?
Et j'ai choisi Vladivostok, à l'époque je travaillais tout simplement comme professeur de français à l'université. Et puis après, on m'a proposé de créer l'Alliance française. Ça me permettait de rester sur place. J'ai jamais regretté. Vladivostok est une ville dont je n'avais aucune connaissance. Je pensais même, comme tout le monde d'ailleurs, et les gens qui nous écoutent, que c'était une ville extrêmement glaciale, arctique, alors que pas du tout. C'est une ville qui a l'altitude de Nice. Et c'est une Russie très, très surprenante sur la mer du Japon, à côté de la Corée, de la Chine, où il y a beaucoup de brume, de mousson, il y a même des requins qui passent, bon, c'est assez exceptionnel, mais enfin ça permet quand même de comprendre que c'est une ville qui est plutôt méridionale, et puis surtout c'est une ville qui est à 9000 km de Moscou, et j'ai eu là-bas une liberté extraordinaire, et puis un contact avec les Russes privilégiés. J'étais quand même assez peinard là-bas, et ça m'a permis de vraiment explorer cette région.
Et c'est la première région qui te sert finalement d'écrin pour ces écrits que tu décides de publier.
En plusieurs années, j'ai réuni des observations, des notes, etc., etc., qui ont fini par donner mon premier livre qui s'appelle Vladivostok, Neige et Mousson. Je l'ai appelé comme ça justement à cause de cette incroyable situation climatique de Vladivostok, géographique, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des hivers sibériens et en revanche on a des étés qui sont plutôt coréens, mandchous, avec beaucoup d'essence aussi dans les forêts asiatiques, des tigres aussi. Cette situation à la frontière des deux mondes de Vladivostok qui me plaisait énormément, c'est ça que j'ai voulu un petit peu retransmettre dans ce tout premier ouvrage qui, somme toute, était quand même assez naïf et c'était mes débuts, quoi. Mais encore une fois, l'écriture, c'est une aventure en soi. Je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, mais ça progresse, on progresse beaucoup dans l'écriture et ça, c'est fascinant.
Je te cite à nouveau, tu dis « J'essaie, moi, de m'effacer au maximum ». Mais t'effacer par rapport à quoi ? Par rapport à ce que tu vois, par rapport à ce que tu sens des endroits que tu visites ?
On n'est qu'un prétexte pour emmener le lecteur sur des sites naturels ou à la rencontre des gens qu'on croise. Ça ne veut pas dire qu'on doit être absent, je crois, de ces livres, mais on doit, et c'est un équilibre assez difficile, assez subtil, on doit être là sans y être, c'est-à-dire on doit emmener par la main le lecteur, en dire suffisamment sur soi pour justifier un peu de son voyage. Et puis, dès qu'on a face à soi quelque chose qui nous dépasse, et en voyage c'est absolument quotidien et permanent, et bien on doit disparaître pour donner la parole à ceux qu'on croise et essayer de retransmettre des atmosphères et apporter les connaissances qu'on a pu acquérir. Voilà. Moi, dans cette taïga d'Extrême-Orient, j'ai beaucoup marché, je me suis débrouillé comme je pouvais, c'est-à-dire quand il faut marcher, on marche, quand il y a un transport, on le prend, qui permet de rencontrer les gens. Mais la relation quotidienne, exhaustive de ses souffrances, de ses ampoules aux pieds, je ne crois pas que ça soit vraiment nécessaire au récit de voyage. Un petit peu, parfois, il y a quelques anecdotes amusantes qui peuvent un petit peu soulager par ailleurs la narration, mais ce n'est pas le principal.
Alors Cédric, ensuite, tu te rapproches de chez nous, tu arrives en Ukraine en 2010, à Donetsk exactement, où tu crées l'Alliance française. Et là, ça n'a plus rien à voir avec l'Extrême-Orient russe, c'est une zone plus sombre, beaucoup moins attrayante.
Donc moi, j'ai connu cette région pacifique pendant 3 ans, et quand la guerre a éclaté, je la connaissais parfaitement. Quand je suis arrivé, moi, j'étais un petit peu perplexe. Je voulais pas rester. C'est une région assez austère, hein, le Donbass. C'est ce que tu disais. C'est une grande steppe assez sèche, avec des puits de mines partout, des corons, des terrils de charbon. Et c'était pas mon rêve, quoi. Donc, je me suis installé, je suis resté. Et avec le temps, je me suis attaché à cette région, exactement. Ça tient beaucoup aux hommes, parce que le paysage, encore une fois, c'est pas forcément le paradis. Ça tient beaucoup aux hommes qu'on rencontre. C'est une plongée dans l'ex-URSS, en fait. C'est amusant comme parfois le temps et l'histoire avancent en ordre dispersé. C'est-à-dire, il y a des régions qui ont l'impression presque qu'elles sont en avance sur notre époque et d'autres qui sont en retard. Elles s'attardent à des époques que nous, on a oubliées. Et là, le charbon, c'était quoi en France? Le charbon, c'était la fermeture des dernières mines dans le nord de la France, c'est fin des années 70, début des années 80 maximum. Et là, je vivais dans une région qui vivait entièrement de l'anthracite. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre pour mon roman. L'anthracite, c'était le fondement de tout, encore en 2010. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, même si beaucoup de mines ont fermé depuis la guerre. Et ça a été assez fascinant pour moi. C'est pas un monde qui m'appelait, qui m'attirait, mais c'est aussi ça, explorer sa planète. Ne pas suivre que ses envies, son goût pour telle ou telle contrée. C'est aussi aller voir des choses un petit peu plus austères. Et dans ce cas-là, il faut approfondir. Et évidemment, la connaissance de la langue est fondamentale, parce que quand il n'y a plus le plaisir des yeux, il faut qu'il y ait le plaisir des sens. Et moi, je crois que l'excitation intellectuelle en fait partie.
Je voudrais citer Jacques Lacarrière, grand écrivain voyageur, notamment spécialiste de la Grèce, qui dit « Un écrivain voyageur, c'est pour moi une sorte de Bernard l'ermite planétaire ». tu partages ?
Il y a un peu de ça. En fait, c'est assez rigolo, cette idée d'écrivain voyageur, parce que c'est assez récent hein, dans l'histoire de la littérature. Et il y a des pays dans lesquels ça n'existe même pas. C'est un genre qui est assez anglo-saxon. Ça s'est beaucoup développé en France ces dernières décennies. Il y a eu notamment cet écrivain suisse Nicolas Bouvier qui a beaucoup fait pour la littérature de voyage. On n'est plus dans l'exploration, on est dans le récit du monde. Pour écrire un livre, il faut avoir un appétit formidable, incroyable, insatiable du sujet. C'est un tel travail que si vous n'êtes pas absolument passionné par l'affaire, c'est quand même difficile de mener votre texte à bien.
Je voudrais qu'on aborde maintenant ta saison préférée. Et j'en parle avec d'autant plus de recul que pour moi, c'est la pire des saisons de l'année. L'automne, l'été indien. Tu l'appelles l'été des femmes, comme on dit en Russie, et qui t'a permis d'écrire en 2015 l'hiver aux trousses. Pourquoi tu aimes autant l'automne, cette saison de transition entre l'été, la chaleur, et puis le froid de l'hiver?
Ben moi, j'ai un grand défaut, Denis, c'est que je suis assez mélancolique. Et c'est vrai que la saison de l'automne s'y prête bien, même si l'automne, c'est pas seulement des feuilles mortes sous la pluie, c'est aussi un ciel azur et des couleurs magnifiques. C'est ce qu'on appelle l'été indien. Alors les Russes, effectivement, appellent ça Babye Leto, l'été des femmes, qui est une expression assez curieuse, mais assez jolie. Vous savez, au Japon, il y a la fête du printemps avec les cerisiers en fleurs, qui s'appelle Hanami, je crois. Mmh. Et il y a son pendant automnal, qui s'appelle le Momijigari. Et là, c'est les érables. On va contempler les feuilles rouges des érables. C'est une saison qui me correspond, qui m'a toujours transporté. Et en revanche, j'ai toujours eu le regret qu'elle soit si brève, parce que l'été indien, ça va très très vite, surtout dans les régions sibériennes, continentales, parce que il y a ce qu'on appelle les intersaisons, le printemps, l'automne, ça va très très vite. Il y a surtout un long été très chaud et un grand hiver très froid. Et donc, essayer d'attraper cet automne, cet été indien, je m'étais lancé ce grand défi qui était de voyager avec l'automne de l'Arctique vers des contrées plus méridionales, parce que c'était la seule manière finalement de prolonger l'automne, c'est de voyager avec lui. L'automne, il naît fin août, puis il se déplace très rapidement vers la zone intertropicale. Globalement, j'ai eu que des ciels azur, des couleurs absolument sublimes. Et ça a été un voyage d'une esthétique, d'une poésie pour moi inégalé. Je suis pas sûr de pouvoir refaire ça un jour. C'était en plus dans des régions, tout le monde parle du monde sauvage, des derniers sanctuaires. Là-bas, ce n'est qu'un gigantesque parc national qui n'en a pas le statut, parce que tout simplement, personne n'y habite. Donc, c'est vide, ce sont des taïgas à l'infini. J'ai appelé ça l'hiver aux trousses, parce que c'est vrai que je voulais mettre l'automne dans le titre au début, puis j'ai pas trouvé de bon titre. Finalement, ça s'est appelé l'hiver aux trousses, parce que c'est vrai que j'avais cette pression qui était de me retrouver sous la neige du jour au lendemain, parce que derrière l'automne, c'est l'hiver. Et dans ces régions-là, si on n'a pas réussi à passer à telle chaîne de montagne, tel col, à sortir de telle ou telle région, et ben on peut rester coincé par l'hiver pendant plusieurs mois jusqu'au dégel, parce que c'est aussi la fin des transports, beaucoup de gens qui partent, comme les animaux. Il y avait, moi je me souviens, pendant que je descendais l'Extrême-Orient avec l'automne, il y avait dans le ciel ces vols d'oiseaux migrateurs en permanence qui criaient au-dessus de moi et qui montraient la direction. C'était une espèce de grande déroute de la nature, et moi j'étais dans mon élément. L'automne, c'est ma saison, et d'ailleurs, j'ai d'autres projets autour de ça.
Cédric Gras, écrivain voyageur, est mon invité aujourd'hui dans Vie d'aventure. Je te cite à nouveau, tu dis « Le voyage est synonyme d'aventure, évidemment, mais ce qui m'intéresse plus, c'est les deux mots suivants, synonyme de poésie et de solitude. Pour bien voyager, pour bien respirer le monde qui t'entoure, tu as besoin d'être seul ?»
Oui, alors, oui, ben oui. D'abord, dans le contact avec les gens, c'est essentiel. Un troupeau ou même un petit groupe, voire un binôme, eh ben, ça peut faire peur, ça peut empêcher la rencontre avec les gens localement. Ensuite, dès qu'on engage une conversation, on est toujours mieux servi, plus concentré lorsqu'on est seul. Quand je vais en Russie, par exemple, j'aime beaucoup être avec quelqu'un qui parle aussi le russe. Et comme ça, on peut se séparer. On se dit, on se retrouve ce soir à tel endroit, chacun fait sa vie, même ça peut être sur plusieurs jours. Et ça permet d'avoir un camarade, et de partager des moments amusants à deux, et de briser la solitude aussi, et en même temps, eh bien, d'être quand même exposé au pays. Moi, je trouve que la solitude, ça vous expose au pays. C'est important, ouais, d'être exposé. Ça peut être un danger, parfois, c'est vrai, mais c'est comme la photographie, quoi. Si vous n'êtes pas exposé, il n'y aura pas d'impression. Donc, la solitude, elle me paraît nécessaire.
Es-tu également un poète voyageur? Est-ce que dans tes écrits, dans tes pensées, la poésie est présente?
C'est difficile, d'ailleurs, aujourd'hui, d'écrire poétiquement. Parfois, on va trouver que votre style est lourd, empoulé. Moi, on m'a un peu critiqué là-dessus parce que j'ai une certaine propension parfois au lyrisme. Alors, parfois, ça peut être ridicule, je m'en rends compte moi-même, d'ailleurs. mais l'époque juge assez sévèrement ce genre de tentation littéraire. Aujourd'hui, elle glorifie plutôt un style assez sec, avec des phrases courtes, au présent de l'indicatif. Donc, oui, moi, j'ai une part de poésie en moi. J'essaye de la retranscrire à travers ma prose de temps en temps, même si je m'essaye un petit peu à tous les styles et tous les genres. On parlait de la solitude tout à l'heure. La nature, par exemple. Moi, j'ai constaté une chose en voyageant, c'est que la nature, on ne la ressent que quand on est seul, en fait. Vous pouvez être dans les endroits les plus incroyables du monde, les plus beaux sanctuaires de la planète, dès qu'il y a un groupe, on perd ce lien avec la nature. Donc c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose d'assez indicible, d'indéfinissable. Il y a des choses qui sont pas très concrètes, mais qui existent. Et ce lien qu'on peut avoir avec la nature quand on est seul, il est proche de la poésie. Enfin, il est évident que on ne peut pas être à l'écoute du monde sans être sensible à sa beauté. Et sa beauté, elle se retranscrit forcément par la poésie. Comment retranscrire la beauté autrement que par la poésie? Il y a énormément de manières aujourd'hui, avec des moyens très modernes, de faire passer un sentiment poétique.
Dans un instant, nous parlerons de ton dernier livre, Alpiniste de Staline, qui t'a permis de recevoir le prix Albert Londres. Mais d'abord, partons en Antarctique, à bord de ce brise-glace russe, l'académique Fedorov. Pareil, une expérience au long cours qui t'amène à l'écriture avec ce livre sorti en 2017, La mer des cosmonautes. Pourquoi avoir eu envie de t'intégrer, de t'immerger sur ce brise-glace?
C'est pas forcément une région du monde dont je rêvais. En revanche, moi, je suis prêt à tout, je suis curieux et j'aime explorer le monde d'aujourd'hui, comme on disait. Donc, j'ai embarqué sur ce bateau, Académique Fyodorov, ça s'appelle. C'est un gros brise-glace, alors qui n'est pas nucléaire, il est de Saint-Pétersbourg ou de Kaliningrad, je ne sais plus. Et il faisait sa dernière escale avant l'Antarctique, en Afrique du Sud, je les ai rejoints là-bas. Le voyage était déjà suffisamment long pour que je m'épargne la descente de l'Atlantique. Ça a été un voyage exceptionnel parce que on ne va pas en Antarctique par des vols réguliers. Donc moi, partir avec les Russes, c'était évidemment assez naturel. D'abord exceptionnel, hein, parce que les Russes n'embarquent pas comme ça souvent des gens. Mais en plus, c'était naturel parce que je parle leur langue, je les connais bien. Et puis parce que ce sont des pionniers de l'Antarctique. Les Russes, les Soviétiques plus exactement, à partir de l'après-guerre et à partir de la deuxième année polaire internationale qui a fait que toutes les bases antarctiques pérennes se sont installées en quelques années sur le pourtour du continent antarctique, et bien les Russes ont été très présents. Ils ont installé jusqu'à une dizaine de bases à l'époque soviétique. Il en reste aujourd'hui ouvertes selon les années 3, 4, 5. Et ils ont été les grands explorateurs de la partie orientale de l'Antarctique. Alors ça veut rien dire évidemment les points cardinaux lorsqu'on est au pôle sud, mais on va dire du secteur de l'océan Indien, qui est l'endroit le plus haut, le plus froid du monde. Ce sont les Russes qui ont mesuré dans leur base de Vostok des températures inférieures à moins 80 degrés. Donc ce sont des gens qui sont très loin du pôle sud. Hein. Ils viennent du Grand Nord et débarquent dans le Grand Sud. Mais il y a une logique à ça, c'est qu'ils ont l'expérience de l'Arctique et donc ils la reproduisent en Antarctique. Ce sont presque des maîtres S glace. Donc moi, partir avec eux, c'était faire un coup double. Quoi. C'était partir avec des spécialistes et aussi avec des gens que j'affectionne et que je connais bien. Et donc avec la certitude de mieux pouvoir raconter cette expédition.
Bien évidemment, il y a les grands espaces autour de ce brise-glace, mais par rapport à toutes tes autres expériences, eh bien tu es limité dans tes déplacements, tu es limité aussi dans ta solitude. Est-ce que ça a changé ta façon d'appréhender, de découvrir ce monde antarctique?
Et oui, moi, je m'attendais, je me disais, bon, l'Antarctique, c'est la surface de l'Europe recouverte de glace. Donc, c'est la liberté. Il y a cette idée, immensité égale liberté. Oui, d'accord, mais ça marche quand la planète est habitable. Ça marche lorsque l'homme peut vivre. C'est qu'il y a des forêts, qu'il y a de la chlorophylle. Or, l'Antarctique, non. L'Antarctique, c'est la planète Mars. L'Antarctique, c'est un continent sur lequel ne vivent aucun mammifère. Sur le continent, il n'y a rien. Sur le continent, tout est stérile. On peut trouver quelques bactéries, etc., etc. On n'est plus sur la terre des hommes. C'est terminé. On est sur une partie de la planète qui est absolument inhumaine. Elle est stérile, elle est austère, elle est glaciale, elle est minérale. C'est presque la Lune, quoi. D'ailleurs, les agences spatiales internationales s'intéressent à l'Antarctique. Elles vont en Antarctique pour tester d'abord le confinement des hommes et aussi pour tester des robots et différents équipements qui vont partir ensuite dans l'espace. Et donc moi, je me suis retrouvé effectivement contraint dans mes déplacements. D'abord, il y a le bateau, beaucoup de jours de mer, on est dans la banquise, la glace, c'est un espace clos. Et ensuite, lorsqu'on débarque sur les bases, alors les bases, elles sont installées sur les rares portions de l'Antarctique qui ne sont pas recouvertes de glace. Il y a très peu de sites. Hein. Et donc, c'était un peu le contraire de la liberté. Et j'ai l'impression que l'exploration spatiale, ça va être ça. On va voyager dans l'infini de l'univers, mais en étant dans des espaces clos. Et donc, quelque part, la liberté de l'homme de marcher, d'aller où il veut, toute la beauté du voyage, eh ben, elle sera absente.
En tout cas, on comprend bien que tu as goûté au confinement bien avant l'arrivée de cette épidémie de la Covid. Avant de parler de cette aventure beaucoup plus intérieure hein, concernant ces deux alpinistes russes, les frères Abalakov, d'abord, je voudrais qu'on revienne sur une de tes citations, encore une. Tu dis « Mon plus beau voyage, c'est avec les bêtes sauvages, les ours, les baleines, les albatros, au Tibet, en Islande, en Sibérie. » Franchement, après ce qu'on s'est dit, ça m'étonne, parce que tu mets en avant tes rencontres, le partage avec ces gens, ce besoin d'être seul pour justement mieux partager, et à l'arrivée, tu dis « finalement, je suis mieux avec les animaux ».
C'est fugace, une rencontre avec un animal sauvage. On ne peut pas vivre avec des bêtes sauvages. Et par contre, quand on les croise, il y a une fascination qui est peut-être réciproque, d'ailleurs peut-être qu'on les fascine aussi d'une manière ou d'une autre, j'en sais rien, mais j'ai dit que les plus belles rencontres que j'avais faites c'était ça, plus que les hommes, parce que l'homme est omniprésent aujourd'hui. Moi j'ai beaucoup d'empathie pour l'homme, mais démographiquement on a explosé, la planète est absolument parsemée de populations humaines, et parallèlement, parce qu'en fait il y a une corrélation hein, sans doute, et bien la biodiversité a diminué. Et donc, les bêtes sauvages sont devenues rares, tout simplement. Et les rencontrer seuls dans la nature, ça, c'est devenu assez exceptionnel. Donc, moi, ce sont des instants qui se sont imprimés dans ma mémoire, plus que les rencontres humaines, c'est vrai. Et je ne l'explique que comme ça. C'est parce que la rareté prend de la valeur. Alors, je me souviens, en terre de Baffin, dans une baie, on était sur un voilier, d'avoir été d'un coup entouré par 50 baleines en migration qui étaient là en train de s'ébattre dans cette baie. Ça, je ne l'oublierai jamais. J'ai vu encore en octobre, là, dans l'Arctique, au Tchoukotka, à l'extrême nord-est russe, une chouette des neiges, là. C'est magique. Ce sont des instants magiques. J'ai eu, en plus, dans ma vie, la chance de voir beaucoup d'animaux sauvages. Et je ne l'oublierai jamais.
Cédric Gras, écrivain, voyageur, est avec nous aujourd'hui dans Vie d'aventure. Alors, il y a l'aventure que tu réalises, que tu vis toi-même, et puis il y a l'aventure par procuration. Et c'est le thème de ton dernier livre, Alpiniste de Staline, qui t'a valu il y a quelques jours, bravo d'ailleurs, le prix Albert Londres. C'est vraiment pour un journaliste ou pour un écrivain l'une des plus belles récompenses. L'histoire de ces alpinistes, les frères Abalakov, victimes des purges staliniennes. Là, ton travail, ça n'a pas été de découvrir le monde, de voyager, mais plutôt de t'attacher à retrouver un maximum d'éléments, notamment dans cette immense bibliothèque à Moscou, la bibliothèque Lénine.
Oui, ça a été un travail presque de doctorant, d'universitaire, d'historien aussi un petit peu. Et j'ai une appétence pour les recherches. Je ressens très fortement, et ça me procure un bonheur intense, ce qu'on appelle l'excitation intellectuelle. Et quand je commence à faire des recherches sur un sujet qui me passionne, le moindre détail que je vais pouvoir mettre à jour me met en transe. C'est une autre aventure, quoi, une autre manière de vivre l'aventure. Donc là, je travaillais sur les frères Abalakov. Les frères Abalakov, en France, personne ne les connaît. En Russie, peu de gens s'en souviennent. C'était les stars, on va dire, les légendes de l'alpinisme soviétique et notamment stalinien. J'étais fasciné dans leur histoire par le contraste qu'ils ont vécu entre l'ivresse des cimes, la très haute altitude. Ce sont des gens qui montaient dans les années 30 à plus de 7000 mètres. Hein, c'était pionnier. Hein. Et puis les geôles staliniennes dans lesquelles ils ont pu croupir ensuite pendant la grande terreur des années 38-39, la guerre qu'ils ont menée dans le Caucase contre la Wehrmacht, les nazis. Donc le contexte politique en fait dans lequel se sont inscrits leurs exploits m'a absolument fasciné. En plus, moi j'ai été un grand lecteur, je le suis toujours, un grand lecteur de littérature du Goulag. Tous les récits d'évasion, de survie dans ces camps de travail forcé sibériens, ça c'est quelque chose qui m'a fasciné. Écrire dessus, ça me titillait depuis longtemps, et là je suis tombé sur ces deux destins absolument exceptionnels. Et ça n'a fait qu'un tour. C'était aussi une manière de renouer avec une passion de jeunesse qui était l'alpinisme. Mais pour ça, il fallait connaître la montagne, il fallait connaître la Russie, il fallait connaître l'Asie centrale, il fallait parler russe. En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui auraient pu faire ce livre. Je dis ça de manière assez immodeste, mais c'est vrai. Et donc, j'ai l'impression que cette histoire a été pour moi. Voilà. Ça a été à chaque fois un bonheur, que ce soit les recherches ou le travail de rédaction. C'est une histoire fascinante. Au XXe siècle, les Russes ont vécu catastrophe sur événement. Dictature sur purge, sans oublier d'ailleurs des moments de jubilation, hein, quand Gagarine part dans l'espace, c'est une fierté nationale extraordinaire. Il y a eu beaucoup de soubresauts, quoi, on va dire, au XXe siècle, et c'est vrai que, par comparaison, notre époque paraît légèrement ennuyante. Voilà.
Alors, est-ce que tu t'identifies à Vitali et à Evgeny Abalakov quand tu écris sur eux?
C'est très difficile de s'identifier à eux, parce que alors, d'un point de vue alpinistique, oui, peut-être. On peut se dire que on aurait aimé être à leur place, dans un monde assez vierge, partir à l'assaut de montagnes qui n'étaient pas cartographiées. Un élément crucial, et c'est celui qui m'a intéressé dans le livre, c'est que ils étaient aussi des enfants de la révolution bolchevique. Donc, ils étaient plongés dans une utopie communiste. Moi, je fais partie d'une génération pour laquelle les utopies étaient toutes rangées au placard, puisque aucune n'avait marché. Donc c'était l'acceptation du monde libéral. Il ne faut pas oublier que le monde, c'est pas voyager, c'est pas que faire des jolies photographies, de jolis paysages et de gens sympathiques. Voyager, c'est aussi aujourd'hui aller dans des régimes politiques aussi qui sont là pour le coup très très exotiques pour nous, essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Moi, je crois que dans mes livres, j'essaye aussi de raconter le monde tel qu'il est, sans avoir trop d'œillères, quoi. J'essaye de pas faire abstraction de tout ce qui est un petit peu dérangeant, qui ne pourrait pas faire la couverture d'un catalogue d'agences touristiques. J'aime l'idée d'explorer les sociétés aujourd'hui. Et dans ce livre, bien sûr, je me suis intéressé à l'histoire, mais cette histoire, quand on connaît un peu la Russie, elle a de telles répercussions sur la Russie d'aujourd'hui que finalement c'était un travail entre passé et présent. En plus, moi, je me suis amusé à retourner sur leurs traces en Asie centrale, à Moscou dans les archives, donc dans leur maison natale en Sibérie, etc., etc.
Je vous conseille vraiment vivement de lire Alpiniste de Staline, signé Cédric Gras aux éditions Stock, prix Albert Londres, on le rappelle une nouvelle fois. Avant de terminer cet entretien passionnant, Cédric, est-ce que tu te considères comme un disciple, un successeur des Jack London, des Jules Verne, et on en parlait, des Nicolas Bouvier, c'est-à-dire ces écrivains voyageurs qui ont traduit par des mots leurs émotions de voyage?
Oui, un petit peu. Écrire, en fait, c'est quelque chose d'assez impressionnant dès lors qu'on s'intéresse à tous ceux qui ont fait la même chose avant vous. Ça peut même être extrêmement troublant, voire intimidant, et à un moment, on peut reposer le stylo en se disant « Mais attendez, qu'est-ce que j'ai à apporter à cet énorme héritage littéraire qui parfois nous oppresse, voire nous pollue ?» Ces auteurs que tu viens de citer, ils sont à la fois fascinants, il faut les lire, et puis à la fois, il faut s'en détacher aussi pour pouvoir raconter justement son époque, et puis aussi parfois dans un autre style, avec une autre manière, et inventer d'autres formes de témoignages. Il faut toujours avoir un rapport distancié, je crois, à cet héritage. La limite, pour moi, de l'expression d'écrivain voyageur, c'est évidemment de cantonner l'écrivain au voyage, parce que on parlait de Bouvier, on parlait de Tesson. Évidemment que très rapidement, la littérature peut prendre le dessus et s'éloigner de la simple expérience de tel ou tel périple. C'est ça aussi qui m'intéresse dans la littérature. Pour ne rien te cacher, mon prochain livre, en tout cas ce que je suis en train d'écrire, j'espère que ça aboutira, c'est un roman. Mmh. Voilà, ça va être assez différent de ce que j'ai fait précédemment, parce que la littérature m'intéresse. Et même si c'est le voyage qui m'a amené à la littérature, il n'est pas exclu que finalement, un jour, j'arrête de voyager et je ne fasse qu'écrire. Ça pourrait être dans la logique des choses, même si j'en suis encore très loin.
Et ton prochain voyage, alors ?
J'ai un projet, là... Tadjikistan, au glacier Fetchenko, avec Mathieu Torder d'ailleurs, que tu as, je crois, interviewé.
Bien sûr, qui est le plus jeune et le premier Français à avoir rallié en solitaire le pôle Sud.
Moi, j'ai toujours très peur de partir en voyage, en fait. Ça, c'est assez rigolo. Je me souviens, j'avais ça à mes 16 ans, 17 ans, ce qui était peut-être assez naturel à l'époque, mais en fait, ça ne m'a pas lâché, quoi. La veille du départ, je me dis toujours, mais pourquoi tu pars ? Et puis, parfois, j'ai petite angoisse, puis comment ça va se passer, etc. C'est assez marrant. J'ai une appréhension qui ne m'a jamais quitté, alors que j'ai fait un nombre de voyages assez phénoménal. Et finalement, ça passe pas. Il y a des choses qui passent pas avec le temps. Et ce qu'on appelle l'expérience, en fait, il se pourrait que dans certains domaines, ça n'existe tout simplement pas et qu'on n'arrive pas à se faire à certaines choses. Et voilà, c'est la petite confidence, mon cher Denis.
En tout cas, c'est un dénominateur commun entre beaucoup de voyageurs, d'aventuriers, que cette angoisse au moment du départ et cette peur, en fait, du vide et de l'inconnu qui disparaît finalement assez rapidement. Merci infiniment, Cédric Gras, d'être venu dans Vie d'aventure. Et continue à mettre des mots sur ses émotions, sur ses voyages. Parce que l'important, et tu le disais fort bien, quand on voyage, c'est de pouvoir partager avec le plus grand nombre. Et c'est ce que tu fais à travers tes écrits. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir dans Vie d'aventure aujourd'hui. Merci Cédric.
Et merci de l'invitation, merci Denis.
Merci infiniment de votre fidélité. Quel bonheur de partager cette aventure podcast avec vous. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des propositions, n'hésitez surtout pas à me contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Si l'épisode vous a plu, profitez-en pour vous abonner, partager, laisser 5 étoiles ou un commentaire sur votre application de podcast préférée. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité dans Vie d'aventure. Je compte sur vous. Très belle journée.